près de Mbujima et au Katanga oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Capi, le monde a célébré. Le mercredi 16 avril, la journée mondiale contre l'esclavage des enfants. En RDC, plusieurs observateurs estiment que beaucoup d'enfants sont victimes d'une autre forme d'esclavage, qui est le travail et surtout le travail des enfants dans les sites miniers. Quelle est la réalité dans votre milieu et que proposez-vous pour mettre fin à cette situation? Nous recevrons dans ce studio Godé Kayembe, responsable de la LISADEL, une ONG pour la défense des droits des enfants. Berry Franklin Luchaka et Rose Nyanfoura assurent la réalisation de cette émission à la mise en onde de Jean-Claude Siala et au micro, c'est Nicole Ngaka. 081-890-6315 pour participer à cette émission et une seule adresse, @ Parole aux auditeurs, Radio Capi.
Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs revient aujourd'hui sur la journée mondiale contre l'esclavage des enfants qui a été célébrée le mercredi 16 avril. Il est bon de savoir que cette journée est commémorée depuis 1995 après la mort d'un jeune Pakistanais de 12 ans qui avait dénoncé les violences et humiliations subies depuis l'âge de 4 ans lorsque son père l'avait vendu pour rembourser une dette. Et en RDC, vous le savez certainement déjà, de nombreux enfants sont victimes d'une autre forme d'esclavage qui est le travail et surtout le travail des enfants dans les sites miniers. Quelle est la situation chez vous et que proposez-vous pour mettre fin à cette situation? Nous allons parler justement avec Godé Kayembe, qui est le responsable de la LISADEL. Godé Kayembe, bonjour.
Bonjour Nicole.
Vous avez eu certainement à faire un constat à travers le pays par rapport à la situation des enfants. Quel est le constat que vous avez fait par rapport à ça?
S'il faut parler des enfants de manière générale, par rapport à la manière dont les enfants sont protégés, vous allez constater que la République démocratique du Congo a ratifié différentes conventions et en même temps, il a publié une loi sur la protection des enfants. Cette loi, dans sa disposition 53, parle de pire forme de travail des enfants, mais vous allez constater que beaucoup d'enfants ne sont pas protégés par rapport à ce travail. En même temps, vous allez constater que beaucoup d'enfants ont des droits qui ne sont pas respectés. La raison pour laquelle vous allez constater sur le terrain qu'il y a plus de 7 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école. Et l'État ne fait pas plus, ne fait pas assez d'efforts pour que tous ces enfants soient repris dans le système. Et vous allez également constater que beaucoup d'enfants sont dans la rue. Et ceux qui sont dans la rue ne savent pas, n'ont pas d'alternative pour pouvoir reprendre le système normal. Et la situation des enfants est dramatique en RDC.
Oui, mais il y a certainement des caractéristiques. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'esclavage, nous savons qu'en RDC, c'est plus le travail des enfants. Mmh. Alors, quelles sont les catégories où on retrouve réellement des enfants ici en RDC?
Il y a des enfants, on parle du travail des enfants, dans la disposition de la loi. On dit que toutes les formes d'esclavage sont prohibées en Congo, telles que par exemple la vente, la traite des enfants. Et ces choses existent en RDC. Vous rappelez que le DGM venait de prendre des mesures pour que beaucoup d'enfants ne sortent plus. Parce que ceux qui sortaient, on ne savait pas ce qu'on leur réservait comme sort. Et dernièrement, je vous informe que nous avons reçu les 3 enfants qui étaient kidnappés ou sinon qui étaient pris comme esclaves au Liban et que nous avons récupérés au Congo. La situation par rapport à ça, ça existe. Il y a également ce qu'on appelle les travaux qui sont les pires formes de travail. Nous avons les travaux de mines. Il y a beaucoup d'enfants dans les mines. Des enfants de 8 ans, de 9 ans, 10 ans qui devraient être en principe à l'école mais qui se trouvent dans les mines. Et ces genres de travail ne sont pas appropriés pour les enfants.
Voilà. 081-890-6315 pour vos réactions. Godé Kayembe, nous savons que de nos jours, surtout pendant cette période des vacances, hormis les mines, il y a aussi des enfants qui sont dans les rues pour vendre soit des mouchoirs, soit des journaux. À votre niveau, au niveau de la ville d'Adèle, qu'est-ce que vous faites justement pour lutter contre ce phénomène?
Quand on dit que les enfants, le pire forme de travail, c'est le travail qui nuit à la santé de l'enfant, à la croissance de l'enfant. L'enfant qui vend des lots, ça ne peut pas nuire à sa santé. Ça ne peut pas nuire à sa croissance. Mais c'est lorsque l'enfant se retrouve dans les mines, c'est le travail réservé aux grandes personnes, ce travail nuit à sa santé. Et généralement, les enfants qui sont dans les mines se comportent comme les grandes personnes.
Mais un enfant qui parcourt de longues distances à pied pour vendre des mouchoirs, pour vendre des journaux, ça nuit tout de même à sa santé, non?
Oui, je crois que de manière relative, parce que la majorité ne font pas de grandes distances. Et s'ils sont dans le quartier ou s'ils sont à la maison, ça ne pose pas de problème. Le problème, c'est lorsque ce travail nuit à la santé, à la croissance de l'enfant.
Mais tout de même, la place d'un enfant n'est pas dans les rues.
Oui, la place de l'enfant, c'est à la maison ou à l'école.
Alors nous avons déjà un auditeur qui est au bout du fil, c'est Thierry Moukelekele qui nous suit à partir du Katanga. Thierry Moukelekele, bonjour.
Bonjour, bonjour à l'invité et à tous les nombreux auditeurs de la radio Okapi.
Alors, quel est le constat que vous avez fait chez vous dans le Katanga?
Bien, principalement nous partons de Kolwezi et nous rentrons vers Lubumbashi. Kolwezi, autrefois une zone minière de la Gécamine, se retrouve aujourd'hui avec une multiplicité de sociétés. Et ces sociétés sont nées une fois qu'on a fait tomber ce qu'on a appelé EMAC, ce qui encadrait les trésors artisanaux. Cette histoire a entraîné justement la libéralisation et la prolifération de plusieurs sites. Or, principalement à Kolwezi, quand vous êtes aux arrêts Malou, c'est en plein centre-ville, il y a une canalisation qui a plus de 500 mètres, et là vous trouvez plus de 1000 enfants, en tout cas qui varient entre 8 et 14 ans, en train de ramasser justement de pierres pour en faire un sac et ensuite aller vendre.
Oui, et c'est une réalité qui existe depuis très longtemps à Kolwezi.
Oui, pratiquement, ça fera déjà 6 ans, et ça c'est la 7e année, que ça s'est accru davantage.
Mais qu'est-ce que, au niveau de Kolwezi, qu'est-ce que l'État congolais fait pour lutter contre ce phénomène? Parce que normalement, le travail d'un enfant, un enfant ne devrait pas travailler, un enfant devrait plutôt aller à l'école, et non commencer à vendre des cailloux dans les rues.
Tout à fait, nous avons investigué à ce sujet. Au niveau de la mairie, on a juste une politique de chasser ces enfants. Et après avoir chassé, les mêmes policiers qui ont chassé ces enfants touchent qui des 200 francs, 500 francs et les enfants rentrent encore. Et quand vous êtes au niveau des encadreurs, c'est-à-dire EMAC, CESCAM. Donc, toutes ces organisations n'arrivent plus à encadrer même les jeunes enfants. Il y a abandon total.
Il y a abandon total. Ça, c'est le constat que vous avez eu à faire au niveau de Kolwezi, où on constate qu'il y a beaucoup d'enfants qui ramassent des cailloux et qui les revendent ensuite. Merci beaucoup, Thierry Moukelekele, pour votre participation. On passe directement à Epanzola. Epanzola, vous avez également un point de vue à émettre par rapport à cette question concernant le travail des enfants. Vous nous suivez à Kinshasa. Votre réaction, s'il vous plaît.
Oui, bonjour, monsieur, mademoiselle, bonjour à notre invité et tous les auditeurs de la radio Capu pour cette opportunité.
Oui, allez-y, on vous écoute.
Oui, merci beaucoup. Je voulais seulement intervenir avant d'arriver dans mes questions. Je voulais seulement d'abord comme une proposition pour dire que la France aujourd'hui dans notre pays, c'est le Congo de demain. Pour dire que si l'enfant n'est pas bien préparé, nous n'allons pas voir les députés de demain, nous n'allons pas voir aussi les présidents, les ministres, tout le monde qui représente le pays de demain. Pour dire que l'enfant doit d'abord être préparé. Et la préparation de l'enfant, ce n'est pas qu'on dit seulement l'enfant elle est exploité dans des sociétés. Donc, il faut chercher là où l'enfant évolue. L'enfant évolue dans les milieux éducatifs. Pour dire que je vais épingler sur le point de l'enseignement. L'enfant doit être étudié, éduqué pour parler du Congo de demain. Et je voulais parler comment évolue aujourd'hui l'éducation de l'enfant aujourd'hui dans notre pays. Est-ce que l'enfant, elle est bien éduquée? Est-ce que l'enseignement est comment aujourd'hui? À qui nous parlons de l'enfant pour parler du Congo de demain? Et si l'enfant n'est pas bien éduqué, et donc c'est tout à fait qu'il y a une décadence. Et je voulais aussi parler sur la convention, parce que si nous parlons aujourd'hui dans notre pays, le Congo aussi, c'est un pays de l'ensemble des États des Nations Unies. Dans la convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, du 20 novembre 1989, confirmée en RDC à l'ordonnance numéro 90/48 du 22 août 1990, qui dit à l'article 18, l'enfant pour l'éducation de l'enfant est à la responsabilité des parents. Et si les parents sont là, les parents peuvent être aussi incapables. Mmh. Et dans cet article, nous dit que si les parents sont incapables, l'État aussi a l'obligation d'amener son aide aux enfants, aux parents, pour bien élever cet enfant.
Et vous, Epanzola, que proposez-vous justement pour mettre fin au travail des enfants ici en RDC?
Oui, pour moi, je pense qu'il faut la relève de l'éducation de l'enfant. Il faut la prise en charge de l'éducation et contrôler les milieux éducatifs. Comment vont les enseignements aujourd'hui dans notre pays? Est-ce que les enseignants sont bien encadrés? Les élèves sont bien encadrés? Donc, c'est ça la base des Congo de demain, c'est ce que je pense.
Merci beaucoup pour vos propositions. Alphonse, depuis Arou, on vous écoute.
Bonjour Nicole Ngaka, vraiment c'est un plaisir que vous m'ayez donné la parole. Ça me rappelle la voix de Chantal Lumba que j'ai salué en passant.
Allez-y.
Et, merci beaucoup Nicole. L'exploitation des enfants ne se réalise pas non seulement dans les régions minières, mais aussi au niveau de toutes les couches sociales en République démocratique du Congo. Et dans certaines localités du pays, les écoliers et les élèves abattent des travaux qui sont au-delà même de leur capacité. Et ce sont les enseignants qui en bénéficient en plus de leurs primes ou de leur salaire qu'ils reçoivent du gouvernement. Prenons les cas de certaines sociétés à but lucratif et elles font travailler abusivement les enfants en âge de scolarité, donc pour ne citer que ces deux exemples. Bref, Nicole, dans les contrées où il y a des temps d'activités lucratives, les enfants qui sont vraiment piliers de l'avenir de notre pays, abandonnent les études et se livrent au banditisme, ils se désintéressent des activités agropastorales, il y a naissance des rébellions, etc. Alors tout cela arrive parce que la guerre est installée dans les pays. Les parents et les enfants sont tous pauvres et ne vivent que du présent. Donc les inspecteurs du travail ne font pas correctement leur travail à cause de la corruption, de concussion et de clientélisme est devenu monnaie courante dans notre pays. Donc, pour diminuer le taux élevé d'exploitation des enfants, Nicole se propose ceci. Il faudrait que nos dirigeants sensibilisent les parents et les enfants sur les conséquences positives et négatives de cette exploitation sur l'avenir. Deuxièmement, faut qu'ils montrent aux parents leurs devoirs envers leurs enfants et montrer également aux enfants leurs droits et devoirs. Troisièmement, respecter tant soit peu les codes de travail et la loi pour la protection de l'enfant. Il faut aussi rendre obligatoire l'enseignement primaire, mais aussi contrôler régulièrement les travailleurs et les travailleurs plutôt en descendant sur le terrain pour parler du droit de la réalité. Autre solution, c'est qu'il faut punir conformément à la loi ceux qui recrutent et exploitent les enfants pour leur profit. Enfin, Nicole, il faut vulgariser continuellement les estimations juridiques relatifs à la protection de l'enfant pour permettre à qui que ce soit de dénoncer quand il le faut. Voilà ma contribution pour la thématique d'aujourd'hui.
Merci beaucoup, Eric, pour votre contribution. On a plusieurs auditeurs qui nous suivent à travers le pays et je rappelle encore une fois les contacts. C'est 081-890-6315 pour participer à cette émission. Et vous pouvez également nous écrire à l'adresse email pa@radiocapi.net. On va prendre Gaston, Kinshasa. Gaston, on vous écoute.
Merci, madame, pour la parole que vous m'accordez. Je pense que les enfants, nous devons avoir en tête actuellement que les enfants sont considérés, la plupart, je dis bien, sont considérés comme les biens, mais aussi les moyens de production. Dans la plupart des cas, vous allez constater que ce sont les parents, à mon avis, qui sont irresponsables. Donc vous faites venir au monde les personnes sans qu'on puisse savoir quelles sont les garanties que vous mettez, en présence pour leur avenir. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes venu au monde, on vous laisse comme les enfants des serpents, donc débrouillez-vous. Et lorsqu'on parle de ce terme-là, débrouillez-vous, ça veut tout simplement dire que l'enfant sera soumis à de telles maltraitances, à des travaux forcés pour qu'il puisse survivre. Et je veux aussi dire que nous avons un cadre légal, ça c'est évident. Vous savez qu'au Congo, ici, nous sommes parmi les pays qui ont une législation en matière de protection des enfants. Mais les enfants, ces dispositions-là ne sont pas appliquées à la lettre, c'est pas ce que nous vivons. Et nous pensons que non, il y a nécessité pour nous, surtout nous les Congolais, de changer les comportements, disons, mais aussi les méthodes. Quand je dis changer les comportements, concevoir, même pour les générations futures, les gens, ils se connaissent que non. Si nous faisons venir au monde ces gens ici, c'est pour que nous puissions assumer l'éducation, la formation de ces gens-là, au lieu de laisser les vivre, parce que nos enfants sont victimes. Hein? Même si vous dites qu'on ne puisse pas faire comme ça pour eux, mais comment est-ce que ces enfants-là doivent vivre? C'est ça la grande solution, la grande question qu'on devrait se poser. Comme on n'a pas de moyens de subsistance, l'État ne nous protège pas. Voilà, nous sommes contraints à suivre toutes ces voies-là. Et je pense que l'État vraiment a le temps de prendre ses responsabilités en main. Ça signifie appliquer les règles, les dispositions légales en ce qui concerne la protection des enfants, mais aussi avoir des parents responsables dans ces pays qui connaissent que lorsqu'on n'a pas de moyens, on ne peut pas venir parce que les enfants, c'est une charge. Et si vous faites venir des enfants comme ça, supportons, parce que ne croyez pas que ces parents-là qui voient leurs enfants souffrir sont à l'aise. Mais ils n'ont pas de choix.
Ils n'ont pas de choix. Merci beaucoup, Eric, pour votre contribution à cette émission.
Gaston, oui.
Maître Gaston, on va recevoir tout à l'heure Eric et Alexis. Et pour l'instant, nous allons poursuivre avec notre invité. Et nous rappelons encore une fois à tous ceux qui souhaitent intervenir et participer à cette émission. Parole aux auditeurs qui peuvent nous appeler au 081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Godé Kayembe, vous êtes responsable de la LISADEL. C'est une ONG qui défend les droits des enfants. Vous avez suivi les interventions des uns et des autres. Tous reviennent sur le fait que l'État congolais devrait plus sensibiliser les parents, les enfants eux-mêmes. Mais également, on devrait plus impliquer les parents dans l'éducation des enfants. Beaucoup de parents sont distraits. La plupart des auditeurs sont revenus là-dessus. Alors, comment vous réagissez par rapport à toutes ces informations que nous apprenons à travers les auditeurs?
Oui, merci beaucoup pour cette préoccupation. Comme vous le savez, la charge des parents des enfants incombe aux parents. Mais la loi, la Convention relative aux droits de l'enfant, comme le monsieur a fait référence, dit que la charge de l'éducation incombe aux parents, mais avec l'appui de l'État. Que fait l'État pour permettre aux parents de prendre la charge des enfants? En principe, partout ailleurs, les enfants appartiennent à l'État, ce n'est pas aux parents. Il faut modifier, parce que le parent n'a pas le droit de tuer cet enfant ou de lui faire du mal. Sinon, l'État vient à charge, parce que l'enfant, même quand il va être formé, il ne va pas travailler pour le parent, il va travailler pour l'État. Donc à travers le monde, si vous avez vu les Nations Unies décider que tous les pays du monde puissent prendre l'éducation des enfants et rendre l'enseignement gratuit obligatoire, et que l'État s'occupe de la protection de l'enfant, parce qu'on est arrivé tous à la conclusion que l'enfant, quand il va grandir, il pourra travailler pour l'État et non pas pour les parents. Les parents aident l'État à pouvoir trouver des vrais citoyens qui peuvent contribuer au développement du pays. Mais le malheur chez nous, c'est que aujourd'hui, comme tout le monde se plaint, il n'y a aucun dispositif qui est pris pour que les enfants, les parents soient déchargés et que l'État prenne ses prérogatives. Il n'y a aucune disposition qui est prise pour que toutes les conventions que nous avons ratifiées en termes de protection, en termes de l'éducation des enfants, qui sont à charge de l'État, l'État ne les applique pas. Je prends aujourd'hui, l'État congolais prévoit dans la loi fondamentale que l'enseignement fondamental doit être gratuit et obligatoire. Ça suppose que l'enfant, quand il va à l'école, le parent ne donne même pas un écouta. C'est l'État qui paye les enseignants. C'est l'État qui doit payer les frais de fonctionnement. C'est l'État qui paye les enseignants.
Si tous les enfants allaient à l'école aujourd'hui, il n'y aurait pas d'enfants qui travailleraient dans les mines
ou dans les rues. Si tous ces enfants étaient occupés avec les études, vous ne les trouverez jamais dans les mines. Vous ne les trouverez jamais dans la rue. Si vous regardez beaucoup, la plupart d'enfants qui sont dans la rue plaident pour qu'ils rentrent à l'école. Mais pourquoi ils sont dans la rue? Parce que les parents, soit ils sont incapables, soit qu'ils sont orphelins, soit qu'il y a eu le divorce, qui ont fait que ces enfants sont dans la rue. Et quand ils sont dans la rue, personne ne prend l'initiative de le pouvoir les encadrer, surtout l'État, pour que ces enfants puissent se retrouver un avenir.
Kodé Kayembe, vous savez peut-être, en 2003, le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, déclarait « Nous devons impérativement nous employer à mettre un terme à l'esclavage moderne et à la servitude qui frappe les groupes les plus pauvres et les plus marginalisés. » C'est nous, donc c'est ensemble avec l'État, vous notamment, à travers la Ligue de défense des droits des enfants, c'est ensemble qu'on doit faire des efforts pour lutter contre le travail des enfants. À votre niveau, quelles sont les solutions, quels sont les efforts que vous avez eu à faire pour lutter contre ce phénomène?
Notre rôle en tant que société civile n'est pas de remplacer l'État. Quand vous parlez des organisations, il y a même les Nations Unies, même l'UNICEF, même n'importe quelle organisation ne peut remplacer l'État. L'État doit jouer son rôle. Notre rôle, c'est de rappeler à l'État ses obligations.
Et vous le faites?
Et nous le faisons avec le plaidoyer que nous devons faire. Nous faisons le plaidoyer pour rappeler l'État de ses obligations vis-à-vis de la population, vis-à-vis de la communauté internationale avec laquelle il a pris l'engagement de pouvoir protéger les enfants, de pouvoir rendre l'enseignement gratuit obligatoire. Et nous, la société civile, nous, notre contribution, c'est au niveau des plaidoyers. Au niveau où là on constate que l'État n'arrive pas à faire, on lui rappelle. Même si nous prenons l'initiative, par exemple, d'accompagner les femmes qui sont violées, les enfants qui sont violés en justice, quand on a l'initiative de pouvoir réinsérer, notre action est limitée. Mais juste pour avoir suffisamment d'argumentaire afin de réveiller l'État et lui montrer qu'il doit faire, s'il applique telle démarche, il peut arriver à trouver la solution pour la population.
Vous parlez de plaidoyer, mais la dernière activité que vous avez eu à entreprendre en RDC, notamment dans la ville de Kinshasa, pour sensibiliser et aussi pour aider ne fût-ce que l'État à faire mieux son travail, c'était quoi?
Nous avons fait une enquête judiciaire pour savoir au niveau de la justice 2011-2012, qu'est-ce que les femmes... Tous les dossiers des femmes et des enfants qui ont été déférés au niveau de la justice, les femmes violées, les enfants violés, qu'est-ce que la justice a fait de tous ces dossiers-là? Lorsque nous sommes allés, nous faisons cette activité, des documentations, nous arrivons aux résultats. Ces résultats nous permettent de montrer clairement à l'État que votre loi n'est pas d'application, il faut des mesures appropriées pour sanctionner les personnes qui n'appliquent pas la loi, qui banalisent les violences qui sont faites aux femmes aux enfants. Donc voilà ce que nous faisons. Nous faisons l'accompagnement judiciaire et psychosociales des personnes violées. Mais ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est de montrer à l'État qu'il y a des failles, il y a des choses qui doivent être réalisées dans ces domaines. Mais nous partons de preuves. Tout ça sont des preuves que nous devons réunir pour dire à l'État que la justice ne se fait pas dans ce pays. Au lieu de faire des déclarations, nous accompagnons les victimes et nous réunissons suffisamment de preuves que toutes les femmes, les personnes vulnérables qui vont dans les juridictions ne sont pas prises en charge, même si la justice est, même s'il y a des jugements, mais sont les jugements dérisoires où on condamne quelqu'un à une année, à six mois, à trois mois, au lieu de le condamner à cinq ans. Donc nous disons à l'État, voici vos hommes que vous avez mis, qui n'ont pas la moralité nécessaire, mais qui n'ont pas leur place au niveau de la justice. Il faut prendre des dispositions pour les écarter de la justice afin que la justice démarre en faveur des victimes.
À vous écouter, Godet Kayembe, c'est comme si dans votre ligue, hein, votre ONG, vous insistez beaucoup plus sur le viol. C'est comme si c'est ça, hein, je dirais, votre combat. Lutter contre le viol à travers votre ONG, le viol chez les enfants, chez les femmes.
Non.
Mais le travail des enfants, c'est comme si ça n'a pas une grande place, une grande importance dans votre ONG.
Ne dites pas ça, parce que je vous ai dit que nous faisons le plaidoyer. Nous avons fait le plaidoyer pour la gratuité de l'enseignement fondamental. Vous avez suivi qu'au Parlement, on a à un moment donné interpellé le ministre de l'Éducation et le ministre du Budget pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau du système. Et vous avez appris au Parlement qu'on a augmenté le budget pour régler le problème de l'éducation. C'est à la suite de notre plaidoyer, donc après la suite du mémorandum que nous avons déposé, que les autres ont été interpellés. C'est un travail que nous faisons. Nous avons les problèmes de violence qui sont faits aux femmes, aux enfants. Nous disons, ce ne sont pas les femmes violées, même les veuves, les orphelins qui ont des problèmes au niveau de la justice, qui sont des hérités, nous avons l'obligation de pouvoir les accompagner, les aider. Parce que nous faisons, c'est notre travail. Par exemple, par rapport au travail des enfants, nous écrivons, nous faisons le plaidoyer à l'État pour qu'il puisse mettre fin au travail des enfants. Le travail des enfants, pour nous, au niveau de la LISADEL, c'est un travail qui détruit la croissance ou qui empêche l'enfant de croître normalement. Et par exemple, les enfants de l'émine, les enfants les travaux forcés, les enfants qui sont recrutés dans les maisons de passage, les enfants qui sont recrutés dans toutes ces maisons-là. Et nous allons en lutte, nous allons en combat contre toutes ces personnes qui recrutent les enfants au niveau de mine. Nous informons l'État, c'est l'État qui doit faire son travail lorsqu'il doit se rendre compte qu'il y a des enfants qui sont recrutés. Il doit mettre les services de sécurité en marche pour mettre fin au phénomène. Il ne doit pas sensibiliser, il doit mettre le service en marche pour que les auteurs ou les personnes qui s'avertuent à pouvoir utiliser les enfants dans le mine puissent être sanctionnés. À ce moment-là, ils prennent des dispositions pour ne pas le faire.
Et si ce sont les parents eux-mêmes
les parents
qui
doit,
encouragent
l'État
les enfants
doit, dans le L'État doit interpeller le parent. L'État a le pouvoir, il a la police. On arrête l'enfant, on interpelle le parent. Et le parent, quand ils vont payer les amendes, ils vont cesser d'envoyer les enfants dans la rue.
Parole aux auditeurs.
Pour ceux-là qui viennent de se joindre à nous, sachez qu'aujourd'hui, le monde a célébré le mercredi 16 avril la journée mondiale contre l'esclavage des enfants. Et en RDC, vous le savez peut-être déjà, plusieurs observateurs estiment que beaucoup d'enfants sont victimes d'une autre forme d'esclavage qui est le travail, et surtout le travail des enfants dans les sites miniers. C'est peut-être une réalité là où vous nous suivez. N'hésitez pas à nous appeler, à intervenir, à réagir, à faire des témoignages au 081 890 63 15. Et déjà, dans ce studio, nous avons un auditeur, il s'appelle Eric. Eric, qui nous suit depuis Kamina. Eric, bonjour.
Bonjour, Alain.
Oui, on vous écoute.
Oui, j'ai quelques préoccupations.
Allez-y.
Je crois que, pour moi, la grande responsabilité incombe à l'État. Parce que j'ai constaté que dans des carrières et partout où les enfants sont maltraités, c'est parce que les parents sont pauvres et qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'envoyer les enfants travailler là pour gagner quelque chose pour la nourriture et consort. J'ai déjà été dans une carrière de quelque part. J'ai trouvé les enfants de moins de 15 ans travailler dans des carrières et même les enfants de 12 ans. Des jeunes filles de 14-15 ans qui travaillent là, et j'ai participé même à bon, ça m'est difficile à parler, mais...
Allez-y.
La responsabilité incombe à l'État. C'est l'État qui doit améliorer la situation des parents pour que les parents ne laissent pas les enfants aller travailler dans des carrières partout ailleurs.
Tout à fait. Eric, merci hein, pour votre témoignage. On passe directement à Alexis qui nous suit depuis Colusie. Alexis ? Allô Alexis, vous êtes en ligne. On écoute votre témoignage par rapport à cette question que nous abordons aujourd'hui par rapport à la situation des enfants, le travail des enfants à travers le pays. Vous avez un témoignage Alexis ? Je crois qu'on l'a raté. On va passer directement à Galvani. Galvani, vous êtes un Mbujimayi, on vous écoute.
Bonjour Nicole, bonjour à tous les auditeurs des Radio Capi.
Bonjour.
Oui, merci pour la parole. Bon, d'abord, c'est du prime abord la situation d'abord des enfants au Cap Oriental, précisément Mbujimayi, plus pour qu'ils pensent. Vu d'abord, vous savez que la ville de Mbujimayi, c'est une ville vocation minière. Et aussi, vous savez, du temps, les enfants vraiment. Il y a certains milieux, disons, au périphérique de la ville, où on trouve des endroits très hostiles à l'éducation de l'enfant. Et les enfants sont très tentés d'aller dans les... pour, disons, chercher les diamants comme l'église. Maintenant, il y a aussi des causes. Pour quelles sont les causes, vraiment, de cette situation? Et en dehors de ça, il y a aussi des enfants qui vont sur la ville, hein, des enfants qui vendent de l'eau, des enfants qui vendent des légumes, qui montent avec tous les risques possibles, disons les accidents et tout ce qui peut arriver. Maintenant, le cause d'abord, il y a premièrement, c'est, disons, les parents aussi. Bien sûr, tout le monde essaie d'éloigner le parent, soit disant que le gouvernement ne sait pas vraiment améliorer le niveau du bien-être social. Bien sûr, c'est vrai. Mais la pauvreté ne doit pas être une excuse pour un parent de démissionner à ses responsabilités.
Tout à fait.
Les parents doivent, malgré la pauvreté, disons, encorder leurs enfants. Les essayer bien, parce qu'il y a toujours des enfants pauvres, mais des enfants de pauvreté. C'est là qu'il n'y a pas que ces parents-là qui envoient des enfants à l'école, disons, ont plus d'argent que les autres. Non. Mais c'est d'abord la responsabilité aussi des parents. Ils doivent comprendre aussi là que non. Bien sûr qu'il y a une responsabilité de l'État. Deuxièmement, c'est là aussi. L'État doit mettre aussi en place des moyens efficaces de se rendre l'éducation à l'enseignement primaire gratuit. Bien sûr, dans le gouvernement, on parle de rendre les pays, rendre l'RDC un pôle d'intelligence d'ici 2030. Alors je me demande vraiment si avec ces enfants qu'on voit aujourd'hui, ce sont des futurs électriques que nous sommes en train d'encadrer, parce que c'est une bombe à retardement. Et vous savez bien même que ces pays, et dans un pays est fort, le pays, par exemple, le pays développé, ils sont développés parce qu'il y a la population est très instruite. Alors, si les enfants d'aujourd'hui, ce sont des futurs électriques que nous sommes en train d'encadrer.
Ce sont des futurs électriques, tout à fait. Galvani, merci beaucoup, hein, parce que là, on a beaucoup de gens qui nous suivent à travers le pays, beaucoup d'auditeurs qui souhaiteraient aussi donner leur contribution. Serge, par exemple, depuis Bounia, vous avez entendu tout à l'heure Galvani dire que la responsabilité incombe également aux parents. Ils ne doivent pas fuir leur responsabilité, sinon on est en train de former de futurs illettrés. Serge, depuis Bounia, quel est votre point de vue à ce sujet?
Merci beaucoup, maman Nicole. Je crois que lorsqu'on parle aujourd'hui de la responsabilité des parents, mais également l'encadrement des enfants, j'espère au prédécesseur par rapport à son intelligence, mais je crois que la première des choses, nous devons asseoir une éducation sur des bases très solides. Parce que je voulais dire par là, maman Nicole, et également la fille de tous. Nous voulions véritablement montrer un exemple sur les enfants par des initiatives liées notamment à l'agriculture, mais également aujourd'hui à la vie chrétienne, par exemple, parce que c'est là où on a le fondement de toute richesse également pour tout être humain. Mais nous voulions également voir comment, par exemple, aujourd'hui, ces enfants à leur niveau doivent capitaliser les efforts qui sont acquis par les parents. Je crois que c'est l'essentiel de mon intervention qui se résume à ce niveau.
notamment la base solide également, et les enfants eux-mêmes doivent faire un effort pour sortir de cet état de vie qu'aujourd'hui notre pays se trouve dans cet état de choses.
Merci beaucoup Serge. Encourager donc les enfants à la vie chrétienne, ça c'est une proposition que vous faites. Hein. On va passer directement à Olivier. Olivier, et vous à votre niveau, qu'est-ce que vous proposez pour lutter contre ce phénomène du travail des enfants?
Bonjour à l'invité.
Bonjour.
Ok, voilà. Moi, je pense que avant de donner mes propositions, je voudrais d'abord vous donner l'état des lieux ici à Tipit.
Allez-y.
Alors, voilà. Nous avons des enfants qui travaillent. Et je n'approuve pas la position de l'invité qui dit qu'il y a des travaux qui dérangent la santé des enfants. Et il a cité les gros travaux.
Oui.
Je pense que tous les travaux doivent être combattus. Si nous prenons les enfants qui vendent de l'eau à longueur de journée, les enfants qui vendent la chikwangue du matin au soir. Parce que tous ces enfants-là sont des enfants qui sont d'office défavorisés dans leur vie. Et je crois que nous ne devons pas aider les parents à pousser les enfants à faire un travail comme celui-là toute la journée. Alors, donc ça c'est une première chose. Et nous, ici à Tipit, nous en avons beaucoup effectivement. Et ces enfants-là, vous ne les voyez pas à l'école. Nous avons, à tout à fait, vous les avez aussi, les tireurs de chaussures. Ils nous diront, je suis à Sainte-Marie Pinaire. Mais il est dans la rue du matin au soir. Et effectivement, il va à l'école. Et quand il a trouvé un peu d'argent, il va payer ce minerval. Ça signifie que la culpabilité, elle est vraiment totale pour les parents, mais aussi pour l'État. Parce que vous comprenez qu'un enfant qui paye ce minerval, mais qui vient à l'école une fois par semaine, c'est un enfant qu'on accepte à l'école, mais qui en réalité ne subit pas. Alors, je crois que le grand problème, c'est que la famille est dans un état de désagrégation totale. L'État également désagrégé. Et donc, je pense que s'il y a des solutions que moi je peux proposer, la première solution, c'est d'abord de réhabiliter la famille. On doit réhabiliter la famille. La deuxième chose, évidemment, si c'est peut-être la première, c'est ressusciter l'État. Parce qu'il faut quand même que l'État fasse ce qu'il doit faire. Mais il faut ressusciter l'État, pour moi c'est la première chose, et pour réhabiliter la famille. Et en troisième lieu, et c'est pour moi une chose très importante, c'est lutter contre toutes les idées qui favorisent l'existence des parents sans famille, l'existence des enfants sans famille. Parce que je crois, vous avez actuellement des familles constituées d'une seule personne et de trois enfants. Une seule personne, ça veut dire un seul parent, et vous comprenez que ça ne peut pas. On ne peut pas éduquer les enfants correctement lorsque...
Il n'y a qu'une seule personne dans la famille.
Lorsque les parents n'ont pas de moyens aussi, et c'est là que l'État revient encore comme responsable de toute la situation, l'État qui ne donne pas les moyens, parce que si je vous donne les articles 40 jusqu'à 44 de la Constitution, l'enfant est au centre. Et le parent est responsable, mais un parent qui est abandonné par l'État. Et c'est pour ça que nous devons résister l'État, pour moi, c'est une chose. Et l'État doit prendre ses responsabilités en entier.
Olivier, on a entendu votre point de vue hein, sur cette question vraiment importante, réhabiliter la famille, ressusciter l'État. On va donner la parole à notre invité à nouveau hein, pour qu'il réagisse, parce que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit tout à l'heure. Et on rappelle encore une fois, tous ceux qui souhaitent intervenir à cette émission, qui peuvent nous appeler au 081 890 6315.
Parole aux auditeurs.
Godé Kayembe, encore une fois, on revient à vous parce qu'il y a eu beaucoup de réactions par rapport à cette question concernant le travail des enfants RDC. Beaucoup sont revenus sur les mêmes faits, les mêmes réalités. On constate qu'il y a beaucoup d'enfants dans les rues. On constate qu'il y a des enfants qui vendent des sachets d'eau, d'autres qui vendent des mouchoirs ou encore des cireurs de chaussures. Il y en a même un qui a dit qu'il n'était pas du tout d'accord avec vous. Hein. Un enfant ne doit pas travailler, pas seulement dans les mines, mais également les autres tâches là. Un enfant ne doit pas le faire.
Okay.
Votre point de vue, Godé Kayembe.
Oui, merci beaucoup. Je réponds à M. Olivier lorsqu'il dit que il condamne le fait que l'enfant soit utilisé pour travailler. Et là, moi, je me base sur la loi. Je ne parle pas des choses de la sociologie, je parle de la loi. La loi dont je parle, c'est la loi sur la protection de l'enfant qui a été publiée dans notre pays. En 2009. Cette loi, dans sa disposition 23, elle parle de pire forme de travail de l'enfant. Elle n'interdit pas le travail de l'enfant, mais elle interdit les pires formes de travail de l'enfant.
Quelles sont lesquelles?
Je les cite.
Oui, allez-y.
La loi dit ceci. Toute forme d'esclavage ou pratique analogue, telle que la vente, la traite des enfants, la servitude, pour dette, le servage, ainsi que le travail forcé et obligatoire. Deuxièmement, le recrutement forcé des enfants ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés. On parle de l'utilisation, recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution. Ce sont les travaux, les pires formes de travail de l'enfant. On parle de l'utilisation ou recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, ou soit les travaux qui, par leur nature et les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la croissance, à la sécurité, à l'épanouissement, à la dignité ou à la moralité de l'enfant.
Donc on retient que les pires formes, notamment l'utilisation de l'enfant dans la prostitution, l'utilisation de l'enfant dans les groupes armés, ça c'est les pires formes.
C'est ça qu'on est interdit.
Mais l'enfant peut continuer à vendre dans les rues.
Il peut.
Ça c'est pas condamnable.
Si ça ne nuit pas.
Mais ça nuit tout de même à la santé.
Ce qu'il a dit là.
Oui.
Si ça nuit à la santé de l'enfant, ça devient dangereux pour l'enfant.
Oui, mais ça nuit à sa santé.
Si ça l'empêche de pouvoir continuer les études, ça nuit à son avenir.
Mais alors la loi, elle est contradictoire finalement.
Elle n'est pas contradictoire. La loi dit, si ce travail-là nuit, n'est-ce pas? Si les opérateurs constatent que ce que cet enfant fait nuit à son avenir, ils le mettent dans le lot.
Godé Kayembe, il y a pas mal de gens qui vous suivent à travers le pays et qui aimeraient comprendre quand vous dites que vendre des mouchoirs, vendre des sachets d'eau, cirer les chaussures, ça ne nuit pas à l'avenir de l'enfant. Je crois que pas mal de gens ne seront pas d'accord avec vous.
Si c'est pendant les vacances, admettons, si c'est pendant les vacances que cet enfant, parce qu'il a eu une charge à la maison, le parent lui dit de vendre le sachet, de surer les souliers pour avoir une provision susceptible de l'aider à pouvoir reprendre les cours. En quoi cela dérange, nuit à la santé ou à l'avenir de l'enfant? Ça nuit à la santé et à l'avenir de l'enfant lorsque toute la journée, comme il a dit, que l'enfant, à travers la ville, circule avec des chikwangs, des histoires, et ça ne lui permet pas d'avoir le temps d'aller étudier pour préparer son avenir. À ce moment-là, on le met dans les lourds des pires formes de travail de l'enfant. Mais si ce travail il fait pendant les vacances pour lui permettre d'avoir des provisions afin de payer les études, moi on ne voit pas en quoi cela nuit à sa santé.
Godé Kayembe, nous rappelons à tous ceux qui nous suivent que vous êtes le responsable de la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants, étudiants et élèves. On va une fois de plus donner la parole à tous ceux-là qui nous suivent à travers le pays sur la 103.5.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Parole aux auditeurs.
Et c'est Kaoni, depuis Kalemi, qui a le premier la parole. Kaoni, bonjour.
Oui, bonjour. Je prends cette belle opportunité de saluer tous les auditeurs qui sont branchés aux ondes des radios de la paix. Je débite le partage par ce proverbe d'un penseur français qui disait « À force de braver un danger, on finit par y succomber ». Ça signifie quoi? Tout finit par s'user. À force de faire la même faute, on finit par en pâtir. Et mademoiselle Ngaka, ici je voulais juste dire que les exploitations des enfants proviennent de différentes hypothèses. Pour ce qui est de la justice juvénile, les exploitations sont aussi inefficaces et immorales. Elles sont inefficaces comment? Parce qu'elles engendrent un cycle infernal conduisant à l'anéantissement général. J'aimerais également parler de la non-violence. Nous connaissons bien mademoiselle Gaka, le père de la non-violence, qui est connu sous le nom de Mahatma Karamchand Gandhi, lui, fille avocat indien, qui utilisait la non-violence, la non-exploitation, la désobéissance civile Et je parle aussi de Martin Luther King, pasteur américain de race noire. Lui qui différenciait dans son intitulé « Contre l'oppression », il différenciait la non-violence et passive et la non-violence active. Notez, primo, la non-violence active ou non-exploitation active, elle consiste à subir des exploitations. Maîtresse à quelqu'un ou homme peut prendre sa revanche. Alors la non-violence ou la non-exploitation passive, celle-ci consiste à subir des exploitations à quelqu'un sans prendre sa revanche. Ça signifie quoi? C'est là que nous sommes. Nous avons des contraintes qui continuent toujours à turbiner nos frères, nos enfants dans les pays. Il y a des fois, comme l'invité a dit, il faut prohiber aux enfants de ne pas à visiter des régions minières. Et comment les enfants, les parents continuent toujours à fréquenter des circonstances qui sont négatives? Comment est-ce qu'on va prohiber aux enfants d'aller aux carrières pendant que la vie elle-même reste toujours compliquée?
Kaouni.
C'est pourquoi...
Oui. Kaouni, merci beaucoup.
C'est pourquoi j'ai demandé... C'est pourquoi je demanderai
rapidement
au gouvernement juste de repenser aux circonstances, de repenser aux troubles qui continuent toujours à turbuler les pays. Hein.
Merci beaucoup, Kaouni, pour votre contribution. Il y a beaucoup, beaucoup d'auditeurs qui souhaiteraient aussi donner leur point de vue. On va leur donner également la parole. Comprenez-nous, Kaouni. Marcel, depuis Lubumbashi, on vous écoute.
Oui, bonjour Nicole, bonjour tous les auditeurs.
En
fait, c'est un constat amer, parce que moi je suis ici au Katanga et j'ai eu la chance de tourner dans plusieurs carrières minières, j'étais à Momba. On sent que surtout dans des carrières minières où on traite les minerais d'une manière artisanale, les enfants sont nombreux, filles comme garçons. Il y a des enfants vraiment qui sont utilisés avec des travaux lourds. Et il y a des filles qui apprennent même à fumer à bas âge, des filles qui s'adonnent à la prostitution, à l'âge, donc en état mineur. Et donc, c'est vraiment de la barbarie que les enfants sont en train d'apprendre dans le temps des carrières. Alors, moi je dirais que, d'une part, il y a l'irresponsabilité des parents, et d'autre part, c'est la faute incombe au gouvernement qui ne fait pas beaucoup de suivi sur la protection des enfants.
Merci beaucoup.
Alors,
Marcel.
Oui.
Merci beaucoup pour vos propositions. On va passer directement à Papy depuis Kinshasa. Papy, vous avez la parole.
Merci, madame Nkulungaka. Mais depuis d'abord, pour la gouverne des auditeurs, j'ai préféré d'abord parler que l'enfant, selon la loi, est toute personne qui est âgée de moins de 18 ans. Donc, conformément aux dispositions de l'article alinéa 1 de la Constitution et l'article 2 de la loi du 10 janvier 2009 sur la protection de l'enfant. Parce que, pour que les études sachent, qu'attend-on parler de l'enfant? Néanmoins, il travaille, l'enfant peut être peut contracter à l'âge de 16 ans, à moins que cela ne puisse pas nuire sa santé, comme l'a dit l'invité, ou cela ne puisse pas compromettre son cursus au niveau de l'école. Alors, pour mettre fin à l'esclavage ou au toute pire forme de l'enfant dans notre pays, à l'instar de ce que les auditeurs ont déjà dit, notre invité, j'ajouterai une chose, monsieur, madame Nicole. Vous savez que dans la majorité des cas, en matière de travail, les gens errent toujours dans l'informel. Il serait nié que les experts du travail puissent faire leur travail normalement. Parce que 80% des travailleurs congolais œuvrent toujours dans l'informel. Alors, pour terminer, je m'aborderai plus sur les enfants, le travail des enfants-filles. Les filles qui, ce qu'on appelle communément les bonnes. Vous savez, ces enfants-là sont toutefois maltraités, mais cela n'est pas vraiment connu au niveau des autorités. Donc, il serait mieux que l'on puisse mettre un accent sur le travail de ces enfants-là, surtout par rapport à leur salaire, parce que vous savez, il y a une disposition qui parle sur le salaire minimum interprofessionnel garanti qu'on appelle le SMIC. Il faut que le salaire soit décent, le salaire ne peut pas être.
Que ces filles soient bien payées.
Oui. Donc, il faut que ces enfants-là puissent bien être soutenus. Parce que quand on parle du travail des enfants, c'est pas mal. C'est pour leur préparer à la vie professionnelle Parce que l'enfant est
Merci beaucoup, papy. Merci beaucoup, papy, pour votre réaction et surtout vos propositions. Mystère depuis Kikwit, on vous écoute.
Oui, oui, d'abord, je salue l'invité, je salue aussi les anciens de l'école de la D. Je ne suis pas d'avis avec l'invité qui dit que tout travail ne nuit pas. De mon avis, avec le secret du travail, tout travail nuit. Parce que lorsque un enfant est en repos pendant les grandes vacances, tout ensemble, pendant les congés de Pâques, l'État a prévu le repos. Pourquoi? Cet enfant-là qui pouvait bénéficier du repos, vous lui demandez d'aller vendre les chasseurs. Est-ce que d'aller vendre les chasseurs, ça nuit pas à sa santé? C'est la première question. Parce que l'État lui a donné le temps de se reposer à la maison. Et vous lui envoyez encore. Enfin, cet enfant-là n'a pas le congé. Ça signifie qu'à l'école, elle vend le chasseur. Ça nuit gravement à la santé de l'enfant. Voilà. Je devrais encore dire ceci. Ici, écoute, ces travaux-là existent beaucoup. Là, les jeunes filles qui vendent des braises à une longue distance, de 2 heures, 3 heures à pied, et ainsi de suite. Ceux qui vendent aussi des bonbons, des biscuits, de
donc
l'eau.
Tout travail, en fait, nuit à la santé de l'enfant, mystère qui quitte. Oui. Et vous n'êtes pas du tout d'accord avec notre invité, qui se fera d'ailleurs un réel plaisir de vous répondre dans un instant. Rachel, depuis Issiro, on vous en écoute également. Allez-y.
Bonjour, madame.
Rapidement, Rachel, votre réaction par rapport à cette question concernant le travail des enfants, comment vous réagissez depuis Issiro?
Ça va, merci beaucoup. Que j'aimerais me poser la question suivante. Les droits des enfants existent au moins dans notre pays. Parce que, laissez-moi vous dire, madame, ici, ceux qui sont en train de voir les enfants sont mal. Vous allez voir une petite fille à l'âge de 5 à 6 ans, mais qui doit se promener toute la journée et sous-tourner pour essayer de prendre, par exemple, des pondous pour chercher quoi manger. Et tout ça, vraiment, ça fait du mal. Au lieu d'amener tout ça, de nous envoyer tout à l'école, mais les enfants sont en train de souffrir. Il y a même un jour, j'ai vu un enfant qui vendait des pondous. Alors, il s'est mis par terre, il a laissé le papa. Je lui ai demandé si qu'est-ce qu'il en allait peu, c'est qu'il se sent mal et il n'a pas mangé depuis hier. Alors,
mais Rachel, en tant que femme, parce que vous êtes la première à intervenir dans cette émission, qu'est-ce que vous proposez pour mettre fin au travail des enfants?
Oui, ce que je proposerais, c'est au gouvernement, parce que là, je ne vais pas condamner les parents, parce que c'est par dans manque de moyens que ces enfants font ça. Alors, je proposerais au gouvernement de faire quand même, de créer des écoles pour les enfants, des écoles, de tout faire pour bien rémunérer les parents.
Merci beaucoup, Rachel. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre contribution. Jean, vous êtes le dernier à intervenir dans cette émission. Parole aux auditeurs depuis Kinshasa. On vous écoute.
Ok, merci beaucoup. Moi, je pense que c'est comme Rachel vient de dire, il faut que les sociétés de la population soient bien arrangées pour que les parents ne puissent pas faire souffrir les enfants, comme vous le voyez aussi à Kinshasa, par qui ils vendent des lots de 50 francs durant toute la journée. Il y a même des ceux-là qui ne vont même pas à l'école, mais ils sont là pour vendre des lots ou vendre quoi que ce soit, et ils se promènent tout au long des rues et des ruelles de Kinshasa. C'est-à-dire que le gouvernement peut nous aider à améliorer les sociétés de la population pour que les parents aient la possibilité de garder les enfants à la maison pendant les vacances, par exemple, et de les nourrir comme il se doit au lieu de les envoyer faire des travaux qu'ils ne doivent pas faire.
Donc, pour vous, les enfants ne doivent pas vendre dans les rues, pas de sachets d'eau, pas de
couleurs? Non, absolument non. Parce qu'on a dit tous les enfants à l'école, mais ceux-là, la plupart sont dans la rue et ils sont en train de se débrouiller parce que sinon, s'ils ne vendent pas le soir, il n'y a rien à manger à la maison. C'est-à-dire, en quelque sorte, les parents remplacent les enfants,
Jean, merci beaucoup pour votre contribution. On va donner la parole à notre invité qui est Godé Kayembe dans un instant. Alors, Godé Kayembe, vous avez suivi les réactions des auditeurs à travers le pays. Beaucoup ne partagent pas votre point de vue. Ils estiment que le travail des enfants, en fait, les enfants ne devraient pas travailler, même pendant les vacances. Ce n'est pas leur rôle de remplacer les parents et de contribuer, au financement de la famille. Ce n'est pas à eux de le faire.
Oui, je crois que nos amis n'ont pas tort. Parce que sur le plan sociologique, ils sont en train de réfléchir en disant que dans notre tradition, dans nos coutumes, généralement, ce sont les parents qui travaillent à la place des enfants. Ce sont les parents qui ont la charge de pouvoir s'occuper des enfants. C'est vrai, ils n'ont pas tort. Mais sur le plan de droit, l'État a défini ce qu'on appelle le travail de l'enfant. il a défini le travail de l'enfant. Et le travail qui ne doit pas être fait par l'enfant.
Les pires.
Le pire forme de travail qui ne doit pas être fait par l'enfant. Je mes limites par rapport à, la vie, à ce que l'État a dit.
Mais au pire.
Au pire forme de travail
les
de l'enfant.
Autres formes, les autres formes, on peut les accepter
les autres, si l'État n'a pas légiféré par rapport aux autres formes, pourquoi moi je dois m'acharner? Parce qu'il n'y aura pas de solution par rapport à ça. La loi a dit une chose. On doit se limiter à ce qui dit la loi.
Mais qu'à cela ne tienne aujourd'hui, aux écailles.
Aujourd'hui, je vous explique.
Oui.
Aujourd'hui, la police peut arrêter cet enfant. Quand il y aura des avocats, ils vont demander à la police de quel droit tu arrêtes cet enfant. Oh, l'enfant est en train de vendre. Montre-nous où là où c'est interdit que l'enfant ne peut pas vendre. À ce moment-là, la police est bloquée. Donc, la police doit se fier à ce qui dit la loi. Donc, moi, je suis en train d'éclairer la société par rapport à ce qui dit la loi. Je suis d'accord lorsqu'ils disent que l'État doit prendre sa responsabilité. Et c'est vrai, les parents sont marginalisés, sont pauvres. Nous disons que l'État, dans la loi, il reconnaît aux enfants le droit d'aller à l'école et la gratuité de l'enseignement fondamental. Tous ces enfants, comme nous l'avons dit, si l'école était gratuite, obligatoire, accessible à tous les enfants,
tous ces enfants iraient à l'école.
Aujourd'hui, l'État a mis en place le programme intérimaire de l'éducation que je salue. Mais ce programme va régler le problème d'accès. On va construire les écoles proches des enfants. Les enfants iront à l'école, mais ils ne vont pas rester à l'école parce qu'on va les chasser. Parce qu'ils n'auront pas payé le minerval. Donc c'est là où j'ai dit à l'État que le problème de l'éducation reste entier tant qu'on n'a pas réglé le problème de maintien des enfants à l'école.
Godé Kayembe, on va s'arrêter là. Nous rappelons à tous ceux qui nous ont suivis à travers le pays que vous êtes le responsable de la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants, étudiants et élèves. Merci d'avoir été des nôtres dans cette émission.
C'est à moi de vous remercier, Nicole.
Allô? 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 Mais ils ne répondent pas?
Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette émission. Parole aux auditeurs, à la mise en onde, il y avait Jean-Claude Sella, à la réalisation Berry Franklin, Luchaka et Rose Nianfoura. Au micro, c'était Nicole Ngaka. Merci encore une fois et le rendez-vous prochain, c'est lundi avec Pierrot et la Méju. À la prochaine.